FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découverte musicale.
Est-ce que tu sens cet arôme envoûtant et doux du café fraîchement moulu? Chez Tinteco, l'art du café colombien, nous vous faisons voyager dans la cordillère des Andes. On vous propose du café responsable, issu du commerce direct, fraîchement torréfié, bien préparé et délicieux. Viens nous voir au 198 rue Hermine, quartier Saint-Sauveur, et rapporte du café en grains pour la maison.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du jeudi 15 janvier 2026. Les centrales syndicales CSN, CSQ, FTQ souhaitent que la démission du premier ministre Legault amène un changement de cap. Pour Caroline Senneville, présidente de la CSN, la seule chose censée à faire serait d'abandonner les projets de loi qui découlent d'une dérive autoritaire décriée de toutes parts. Le président de la CSQ, Éric Gingras, estime pour sa part que son gouvernement n'avait déjà plus la légitimité d'aller de l'avant avec des projets de loi qui musellent les contre-pouvoirs au Québec et entraînent des transformations majeures de l'État de droit. Enfin, Magali Picard, présidente de la FTQ, a déclaré que le virage à droite de la CAQ ne pouvait qu'aboutir au départ de celui qui passait les commandes. La Galerie des arts visuels de l'École d'art de l'Université Laval propose le banc dessin 2026 du 15 janvier au 15 février. Cette 21e édition rassemble les créations de trois jeunes talents du baccalauréat en arts visuels et médiatiques. Marianne Cardinal travaille le textile en puisant dans des archives familiales et publiques gay-lesbiennes. Le duo Victor Gagnon-Nova Katarina Goubache utilise la vidéo pour explorer les rapports hommes-femmes, le processus artistique et les dynamiques de pouvoir. Enfin, Camille Gauvin crée des sculptures et installations où aiguilles et fils sont centraux. Présenté à l'édifice La Fabrique, 295 Boulevard Charest, l'exposition invite le public à réfléchir sur les identités et à vivre une expérience immersive. L'Université du Québec à Rimouski tiendra une journée porte ouverte le samedi 31 janvier à son campus de Lévis. Lors de cette journée, il sera possible de se renseigner sur les programmes d'études, les services et la vie étudiante de l'UQAR et de déposer gratuitement une demande d'admission. Les personnes qui souhaitent assister à une séance d'information sur les programmes doivent s'inscrire à l'avance sur le site web de l'UQAR. Cette dernière, sa fondation ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur offrent diverses bourses pour faciliter l'accès aux études universitaires. Les commerces du Vieux-Québec participent activement à la classique du Vieux-Québec en distribuant entre aujourd'hui et le 1er février 2000 billets gratuits pour la glissade. L'événement qui se déroulera du 30 janvier au 22 février est né d'une collaboration entre le Tournoi international de hockey Pee-wee de Québec et la Société de développement commercial du Vieux-Québec. Il se déploiera sur la terrasse du Frein, à la patinoire de la place Deauville et sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste présentant diverses activités sportives et culturelles. Ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
toute simplicité. Ici de vanter les avantages de la propriété sur la location. Je veux seulement souligner que le sauvage est propriétaire de son propre abri parce que celui-ci est fort peu onéreux, alors que l'homme civilisé loue en général le sien parce qu'il n'a pas les moyens d'en devenir propriétaire. Au bout du compte, sur le long terme, il n'a d'ailleurs même pas les moyens d'être locataire. Mais, me rétorquera-t-on, en s'acquittant de cette taxe, le pauvre homme civilisé s'assure un logement qui passe pour un palais comparé à celui du sauvage. Un loyer annuel compris entre 25 et 100 $, ce sont les prix actuels dans notre État, lui permet de bénéficier des progrès séculaires, de vastes appartements, de peintures et papiers peints propres, d'une cheminée Rumford, d'un bon plâtrage, de stores vénitiens, d'une pompe à eau en cuivre, d'un verrou de sûreté, d'un cellier spacieux et mou autre chose. Mais comment se fait-il que les gens qui sont réputés jouir de ces choses soient aussi communément des hommes civilisés pauvres, alors que les sauvages, qu'ils ne les possèdent pas, sont tous des sauvages riches? Avant de tenir pour acquis que la civilisation est un réel progrès en termes de conditions humaines, ce que je crois, bien que seuls les sages savent voir en quoi. Il faut d'abord prouver qu'elle a produit de meilleurs logements sans les rendre plus onéreux. Le coût d'une chose est la quantité de ce que j'appellerais vie que vous devrez offrir, soit sur le champ, soit à long terme, pour obtenir cette chose. Là où je vis, une maison moyenne coûte environ 800 $. Amasser une telle somme prendra au travailleur 10 à 15 ans de sa vie, même s'il n'a aucune famille à charge. En estimant la valeur pécuniaire du travail d'un homme à 1 $ par jour, car si certains en gagnent plus, d'autres aussi en gagnent moins, de sorte qu'il devra communément avoir vécu plus de la moitié de sa vie avant de posséder son wigwam à lui. La question de savoir s'il eut mieux fait de payer un loyer n'ouvre que sur un choix douteux entre deux maux. Le sauvage aurait-il été plus sage d'échanger son wigwam contre un palais à ces conditions-là?
Avec mon jardin de haricots, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du troc et me nourrir. J'ai de quoi pour passer l'hiver. J'ai du riz, de la mélasse, farine de seigle et de maïs. 22 sous pour le porc, 88 pour le froment. J'ai du sucre, du sel, des pommes séchées, un melon d'eau et des patates. En tout, j'en ai pour 8 $ et 60 sous. Oh, 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 simplifier, 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 oh, simplifier, oh oui. Il m'arrive souvent d'aller pêcher aux rivières qui veulent bien me donner. Même la marmotte peut s'apprêter pour un souper. Et pour les ergoteurs invétérés, j'avoue qu'un bon dîner chez les amis est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Pays, ce que j'ai trouvé m'a pas surpris. Résignation et calme désespoir. trop de malheurs, trop de couteaux, trop d'objets, de fardeaux, trop de fiascos, de beaux habits, trop de travaux et de soucis, trop de détails, de mesquinerie, futilité et vanité, trop de magouilles, de façades, trop d'argent et trop d'enclos.
Alors, bienvenue en toute simplicité. On commence notre saison d'hiver. Et justement, j'ai l'intention d'un peu parler de l'hiver, là, dans probablement, peut-être pas la semaine prochaine, en tout cas dans les émissions qui viennent, parce que notre grande thématique cette année, c'est l'identité. Puis, ça fait partie vraiment de notre identité, un des fondements de notre identité. C'est notre identité nordique, veut pas au Québec. On est en hiver, on vit l'hiver, et notamment aujourd'hui, là, on s'en rend compte qu'on est en hiver, puis faut s'acclimater à l'hiver, faut s'habituer à l'hiver. À chaque année, c'est à refaire. Alors, j'aimerais ça qu'on réfléchisse un peu à ça l'hiver. Donc, je vais avoir quelques émissions là-dessus. D'ailleurs, si pour ceux que ça intéresse, il y a un très beau film qui sur l'hiver actuellement là, au CLAP, qui s'appelle « Le chemin du réel ». C'est deux jeunes qui ont décidé de parcourir à vélo et en ski, évidemment, pour la dernière partie du parcours, le trajet entre le point le plus sud au sud du Québec jusqu'au point le plus au nord du Québec. Alors, c'est tout un périple. Et la première partie se fait en vélo, en hiver, vélo d'hiver. Alors, pour ceux qui font du vélo l'hiver, je vous recommande le film juste pour ça. C'est des scènes de vélo d'hiver assez extraordinaires. Puis ensuite de ça, c'est un long périple en ski jusqu'à la pointe. Au Cap, je me souviens plus du nom du Cap, complètement au nord du Québec. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un pays nordique. Nous, on vit, la plupart des Québécois, on vit dans le sud. Et en fait, le Québec, c'est surtout le Grand Nord. Là. Si on regarde au niveau de l'espace, là, un espace qui est comme inoccupé, mais qui est immense, ce territoire-là. Qui est occupé par les Inuits, et d'ailleurs dans le film il y a des beaux témoignages d'Inuits qui parlent de leur vie moderne dans le fond, mais qui sont totalement heureux de vivre dans le Nord, qui veulent continuer à vivre. Alors ça nous aide à nous accommoder du Nord. Il y a aussi quelques interventions de Jean Désy qu'on a eu à l'émission ici, qui est un autre on peut dire apôtre de la nordicité. D'ailleurs, lui, il est parent avec Louis-Edmond Hamelin, qui est celui qui a fait découvrir la nordicité aux Québécois. Puis d'ailleurs, je vais revenir avec Louis-Edmond Hamelin aussi dans les prochaines émissions. En tout cas, c'est au CLAP. Je ne sais pas si ça dure, ça va être à l'affiche encore longtemps. En tout cas, je vous le recommande, c'est un beau film, ça s'appelle « Le chemin du réel ». Alors, je commence par aujourd'hui une rétro, une assez longue rétro, parce que on était absent là depuis presque la mi-décembre. Ça fait presque un mois qu'on n'a pas eu d'émission en toute simplicité, donc j'ai pas fait de rétro de l'actualité. Alors, j'ai sorti quelques articles pour vous. On commence avec... on avait encore des émissions, mais il me semble que ça fait longtemps. On parle de Belém, les rencontres, la COP. Je ne me souviens plus la COP, quel numéro, là, mais on a eu d'ailleurs Jean Nollet ici qui est venu nous parler de la COP. Et il me semble que c'est loin. Il me semble qu'on qu'on ne voit plus ça dans l'actualité. Là. J'ai une caricature que j'aime beaucoup. La caricaturiste du soleil s'appelle Chloé. Je pense que c'est ça, oui, Chloé. Moi, j'aime beaucoup ses caricatures. J'en ai conservé quelques-unes, dont celle-là ici sur le... qui date du 24 novembre, loin de Belém, alors que les dirigeants du monde célèbrent un triste consensus. Le lièvre d'Amérique a revêtu ses habits d'hiver et se demande s'il échappera au renard aujourd'hui. Alors, tout un contraste. C'est un beau dessin où on voit les usines qui crachent de la fumée et le lièvre dans sa réalité nordique. Une autre caricature que j'ai conservée, c'est celle du 3 et 4 janvier. C'est pour annoncer l'année 2026 qui commence et c'est écrit « Prêt pour 2026, point d'interrogation ». Puis c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Un char allégorique. Pas un char allégorique, mais des montagnes russes, c'est ça. Montagnes russes qui fait 2026 avec toutes sortes de tourbillons. Et oui, effectivement, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être 2026 parce que la façon que ces parties-là, ce sont vraiment des montagnes russes. L'actualité, il se passe à chaque jour, il se passe quelque chose. On parle d'envahir le Groenland, de même d'envahir le Canada, d'occuper le Venezuela, il y a des guerres, même le premier ministre qui a démissionné cette semaine. Alors, c'est vraiment des montagnes russes. Alors, ça, c'était la caricature du 3 et 4 janvier de la caricaturiste du soleil Chloé. Puis, enfin, dernière caricature, c'est pas une caricature, c'est une BD. Elle en publie régulièrement dans Le Devoir. Ça, c'était dans Le Devoir du 22 décembre. Puis c'est une belle BD sur la simplicité volontaire, dans le fond. Là. Noël, fête de la surconsommation. Et, on parle vraiment de simplicité volontaire. Et justement, dans la BD, dans les dernières cases, on dit 45% des Canadiens avaient aussi l'intention d'acheter des cadeaux revendus, recyclés ou usagés. Ça aussi, on va en reparler du réemploi des objets. D'autres préfèrent offrir des expériences. Puis, dans le dessin, on montre des billets de théâtre, un abonnement numérique au journal Le Devoir et le livre de Serge Mongeau, La simplicité volontaire. Alors, on a des clins d'œil. On parle toujours de simplicité volontaire, mais c'est moins... disons qu'on en parle moins qu'avant, mais ça continue à apparaître dans les médias. Alors, un texte que j'ai retenu, c'est dans Le Devoir du mardi 23 décembre, « De consommer à déconsommer ». Et ça fait référence à la revue Futurible. Je ne sais pas si c'est encore en kiosque, ce numéro-là, mais en tout cas, c'est un numéro qui parlait de consommation. Comment mieux optimiser ce qu'on produit? Est-ce qu'on pourrait trouver une sorte de compromis en préparant une sortie progressive de cette logique consumériste pour accorder moins d'importance à la consommation matérielle? Cela permettrait de donner plus d'importance à des besoins plus immatériels qui vont devenir centraux dans nos sociétés. Besoin d'être en bonne santé, de vivre dans un environnement sain, estime Cécile Desaunay, directeur d'études au Centre de réflexion français Futurible. Selon l'autrice de La société des besoins, comment passer du superflu au suffisant, la population de l'Hexagone consomme un peu plus chaque année, mais avec une croissance moindre que celle d'il y a une ou deux décennies. Le vieillissement des Français, la surabondance en équipement, les contraintes financières et les critiques anticonsuméristes, ils sont pour beaucoup. Il y a une sorte de détachement et de critique de la société de consommation parce qu'on le voit beaucoup en France. Il y a cette idée que finalement, on s'est aussi un peu fait avoir et qu'on prend conscience des limites du consumérisme. ça ne considère, ça ne rend pas heureux que ça coûte l'argent et qu'on nous vend des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Explique Mme Desaunay, qui considère d'ailleurs que cette période de consommation, qui a commencé pendant les Trente Glorieuses, comme une parenthèse, juste après la Seconde Guerre mondiale, la croissance s'emballe, la population augmente, l'offre des biens et de services aussi, et les ménages sont plus équipés. Si ces besoins devaient être satisfaits, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'ils sont pour la plupart de la population. On continue à générer de la croissance un peu artificiellement, avec du renouvellement. On remplace nos équipements, on nous convainc qu'il faut en acheter d'autres, observe Mme Desaunay. Alors justement, on devrait plus s'adonner au réemploi, à la réutilisation. On a eu dernièrement Sarah Grenier de la ressourcerie Nos Choses, que je vous recommande, là, qui est sur le rue Père Marquette, là, dans Montcalm. On devrait plus, quand il vient le temps, si on a besoin d'objets, d'acheter des objets usagés, d'apporter les objets qu'on n'utilise plus dans les ressourceries. Et puis oui, ça fait baisser l'activité économique, la croissance économique, mais ça fait qu'on gaspille moins, on consomme moins, on surconsomme moins. Elle souligne par ailleurs que l'éloignement géographique des consommateurs des pays riches avec ceux qui fabriquent les objets que nous acquérons les empêche de percevoir les effets catastrophiques de leur production sur l'environnement. Un événement comme le Vendredi fou, qui permet aux consommateurs d'acheter leurs cadeaux de Noël à prix réduit notamment, a pourtant des conséquences écologiques majeures. Pour contrer de tels événements, des solutions de rechange existent, comme le Green Friday, qui promeut une consommation responsable et raisonnée. Nous, on parle toujours de la journée sans achat ici, en toute simplicité, mais je pense l'an prochain, quand va venir le temps du Vendredi fou, je vais parler du Green Friday, du Vendredi vert, que je ne connaissais pas. Je l'ai appris en lisant l'article. En outre, si les besoins fondamentaux comme se nourrir, se loger ou se déplacer sont largement satisfaits pour la plus grande partie de la population des sociétés riches, une portion des individus ne parvient pas à y répondre. Le World Inequality Report de 2026, sorti en décembre, révèle d'ailleurs que les 10% les plus riches possèdent 75% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes au service de l'économie, c'est quand même complètement délirant. C'est-à-dire que nous, individus, on est soit des consommateurs, soit des travailleurs, remarque Cécile Desaunay. Plutôt que de mettre les besoins économiques à la base de notre pyramide et des nécessités actuelles, Mme Desaunay propose de les remplacer par ceux des écosystèmes naturels, ceux surexploités sur une Terre dont 7 des 9 limites planétaires ont été dépassées, afin de pouvoir vivre dans un environnement sain. L'économie serait alors précédée par 3 autres catégories de besoins. Les besoins fondamentaux, immatériels comme la santé et le bien-être, et matériel. La directrice d'études recommande aussi d'interdire la publicité pour les produits et les services les plus polluants, de privilégier l'occasion au neuf, d'encourager la sobriété ou encore d'instaurer des quotas de consommation individuelle. Pour répondre à des besoins qui deviennent surtout immatériels, Cécile Desaunay suggère dans son livre de mettre en place, alors pour son livre, c'est « La société des besoins, comment passer du superflu au suffisant ». C'est Cécile Desaunay, D-E-S-A-U-N-A-Y. Alors, pour répondre à des besoins qui deviennent surtout immatériels, Cécile Desaunay suggère dans son livre de mettre en place une économie de fonctionnalité qui répond aux besoins des services plutôt qu'avec des biens. Elle donne l'exemple de forfaits de communication téléphonique accompagnés de différents services qui varient en fonction des besoins du client. La compagnie qui les vend et qui conserve la propriété du téléphone serait donc plus encline
à façonner des objets qui durent. Je peux avoir d'autres services, je peux avoir des services de réparation, mais au bout de 6 mois ou 1 an, si j'ai encore de l'argent et que je me dis je veux un nouveau téléphone, je le rends à l'entreprise qui le garde et le roule pour moins cher, ajoute-t-elle. On ne sort pas du système, mais le discours imaginaire qui consiste à croire qu'on va expliquer aux gens qu'à partir de maintenant, il ne faut plus rien acheter, ça n'a pas de sens. Je pense que ça n'est pas la réponse non plus. Personne n'y croit et personne ne voudrait y aller, estime Mme Desaunay. Pour moi, la question, c'est plutôt comment optimise-t-on mieux ce qu'on produit, ce qu'on achète? D'ailleurs, dans l'extrait que je vous ai lu de Taureau en début d'émission, lui aussi, Taureau, il parle de la modernité déjà qui est arrivée hein, au 19e siècle aux États-Unis. Puis il reconnaît qu'il ne voudrait pas revenir en arrière, qu'il y a des réels avantages à la modernité, à ce que la modernité nous a apporté, sauf qu'il questionne. Et même, il se demande si vraiment on est plus heureux, si on ne perd pas notre vie à consommer. En tout cas, c'est Taureau, évidemment, est un précurseur là-dedans. Ensuite de ça, j'ai différents articles que j'ai retenus rapidement. Là, on parle du... Ah oui! Des experts du gouvernement se ravisent sur la protection de l'habitat du caribou forestier. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on dirait que l'environnement, l'écologie n'existe plus. L'industrie en premier, l'économie en premier et la protection de l'environnement, du caribou forestier, etc. C'est plus dérangeant que d'autres choses. On a même vu M. Legault lors d'Infoman qui lui demandait pour vous, est-ce que l'environnement c'est important? Puis il disait 50%. Donc on voit que les gouvernements prennent plus l'environnement au sérieux. Il y a aussi la bulle de l'IA va-t-elle éclater en 2026? Ça, c'est vraiment dans l'intelligence artificielle. Je vous disais, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a tellement de choses qui se produisent de tous les côtés. C'est comme un feu d'artifice de nouveautés. Donc, l'IA, ça en est une. Et on se demande si la bulle va éclater. Est-ce que vraiment c'est l'avenir, l'intelligence artificielle. Il commence à avoir des doutes. Je pense que l'IA, ce n'est pas... En fin de compte, on utilise le mot intelligence. Ce n'est pas vraiment intelligent. C'est un agrégateur d'informations. C'est pas pareil. Pas vraiment intelligent. Et peut-être que on est trop excité là, par rapport à l'IA. Oui, il y a... comme on dit, on reculera pas. Mais... peut-être qu'on s'est un peu trop emballé aussi. Évidemment, là aussi, il y a l'histoire du Venezuela, l'enlèvement de Maduro. Au Canada, on veut recommencer à construire des oléoducs puis développer les énergies fossiles au Canada. On se pose plus de questions aussi au niveau du changement climatique. Et justement, dans le Devoir du 8 janvier, texte d'Alexandre Shields, avons-nous basculé dans le déni de la crise climatique? Les gouvernements du Québec et du Canada ont choisi de reculer sur leurs engagements de protection du climat et de l'environnement, après avoir promis de tout mettre en œuvre pour lutter contre les dérèglements climatiques et d'autres crises planétaires majeures, dont celle de la biodiversité. Les gouvernements du Québec et du Canada ont choisi de reculer sur leurs engagements et se donner le droit de contourner des lois environnementales. Sommes-nous en train de nier la gravité des crises écologiques? Soutien indéfectible à l'industrie des énergies fossiles amplifiée par la crise au Venezuela, abandon d'engagements climatiques cruciaux, autorisation de projets industriels, en mettant de côté les droits des lois environnementales, discours politiques assimilant la transition à un fardeau, tant à Ottawa qu'à Québec, les derniers mois ont été le théâtre de décisions qui laissent les experts pour le moins perplexes. C'est décourageant. Laisse tomber Philippe Gachon, professeur au département de géographie de l'UQAM et spécialiste des enjeux climatiques. Ça démontre à quel point nous avons de la difficulté au Canada ou au Québec à écouter les scientifiques. On a beau formuler des recommandations, on ne nous écoute pas. Et à force de politiser le débat, on recule et on remet en question les consultations, les consensus qui avaient déjà été faits. Quoi d'autre? Il y a évidemment la crise aux États-Unis, quasiment une guerre civile, au niveau de l'immigration. On a quasiment envahi la ville de Minneapolis. Le déploiement de 2000 agents de police d'immigration dans le Minnesota s'inscrit dans une hausse importante d'arrestations. On parle aussi du Canada comme 51e État. Dans le Devoir de samedi, le 10 janvier. De Groenland, l'avenir du Groenland doit être décidé par le peuple groenlandais face aux menaces de Washington. Les habitants de l'île revendiquent leur souveraineté. Ensuite, on parle aussi, encore l'IA, là, aux États-Unis. On est en train de construire des centres de données tout partout. Là. Alors, on dit qu'il commence à y avoir une rébellion. La rébellion contre les centres de données redessine le paysage politique américain. Électeurs républicains et démocrates s'allient contre les gens de l'IA qui veulent s'établir dans leur communauté. Parce que c'est assez envahissant, là, un centre de données. On est construit un peu partout là, actuellement. Dans une note plus optimiste, plus positive, il y avait un beau texte dans le Devoir du lundi 12 janvier. Des centaines d'ornithologues convergent vers Montréal pour observer un oiseau rare. Un rouge-gorge familier venu d'Europe suscite un véritable engouement. C'est avec une photo de l'oiseau qui est vraiment beau. Ça vous intéresse? C'était dans le Devoir du 12 janvier, page A8. Et on parle d'ornithologie. Une pratique qui ça aussi, je venais en parler un peu, c'est thérapeutique. Pratiquer l'ornithologie, c'est une sorte de méditation. Et j'ai trouvé un livre là, sur la thérapie par l'ornithologie. Je vais vous en reparler dans les semaines qui viennent. Évidemment, on a aussi la crise en Iran. Avec, justement, j'ai conservé une caricature là, de Chloé dans le lundi 12 janvier. Ça aussi, c'est assez préoccupant. Voilà, c'était ma rétro rapide de ce que j'ai retenu. Ah oui, puis il y a eu des départs. le décès de Brigitte Bardot. Je n'en parle parce que elle avait fait rire d'elle, Brigitte Bardot, là, dans les années 70, quand elle critiquait là, la chasse aux bébés phoques. Mais avec un recul, d'ailleurs, elle a eu... La chasse a été abolie parce que sa campagne a eu un assez bon effet. Puis quand on y pense avec un recul, elle avait pas tard parce que c'était absurde, là, comme c'est vraiment une chasse un peu barbare. On tuait les bébés phoques seulement pour leur fourrure. Alors, on tuait le bébé phoque, puis on enlevait la peau, puis on envoyait ça en Europe pour faire des manteaux de fourrure pour les gens riches en Europe. C'était une pratique qui n'était pas écologique, pas éthique, et je suis certain que les Premières Nations ne feraient pas une chose comme ça. Et aujourd'hui, aux îles de la Madeleine, on a une pratique qui, je trouve, qui est plus logique, qui est plus écologique, c'est que on chasse le phoque pour sa viande, puis on essaie de mettre en valeur la viande de phoque aux îles de la Madeleine. Je trouve que c'est plus... c'est plus cohérent et moins anti-éthique. En tout cas, au point de vue éthique, c'était épouvantable. Alors, petit clin d'œil, Mme Bardot, avec un recul, je pense qu'elle avait pas tard pour, par rapport à son combat contre la chasse aux phoques. Puis, il y a des progrès aussi au niveau des... il y avait un texte dans le jeudi 18 décembre, des panneaux solaires plus efficaces grâce aux protéines d'un virus. Des chercheurs de l'Université McGill ont mis à contribution des matériaux issus d'un virus commun du tabac pour améliorer la performance des panneaux solaires. Ça aussi, c'est que on parle de revenir au pétrole, des énergies fossiles, mais le solaire se développe à vitesse grand V, peu partout dans le monde, et veut, veut pas, la transition va se faire. Alors ça, c'est, il reste toujours de l'optimisme. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. Ah oui, puis pour ceux que ça intéresse, on aura un café philo ce soir à la librairie La Liberté à 19h. Seulement que téléphonez à la librairie si vous voulez venir pour réserver votre place. Et c'est toujours un beau moment de partage, là, les cafés philo, pour ceux qui sont jamais venus. On a besoin de partager ensemble nos réflexions, puis les cafés philo, c'est une belle occasion d'échanger avec d'autres, de partager ses préoccupations, ses idées, etc. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est ce soir, Librairie de la Liberté, 19h. Puis il y a aussi, au mois de février, il y a Frédéric Lenoir qui va venir au Palais Montcalm faire deux conférences. C'est la même conférence qu'il donne, une à 15h puis l'autre à 19h, je ne me trompe pas. Alors, si ça vous intéresse, j'étais allé voir l'année dernière celle sur Marc Aurèle et franchement, c'était un bon conférencier, c'était un bon vulgarisateur, Frédéric Lenoir. Et là, il revient, comme je vous dis, là, au début, dans mi-février, j'ai pas la date exacte. Et il va parler de son livre, de son dernier livre, Les Sept Piliers de la Sagesse. Alors, pour ceux qui s'intéressent. Alors voilà, on prend une petite pause musicale. Et puis au retour, je vais revenir à Taureau. Je vais vous lire des extraits de Taureau, Yogi des Bois.
Je resterai toujours debout, je mènerai ma quête jusqu'au bout. Mes blessures sont trop profondes pour les laisser vaguer sur l'onde. Je trace mon chemin de guérison, j'en ai bien toutes les raisons. Malgré les mots qui nous éloignent, j'en inventerai d'autres qui nous soignent. Malgré les mots qui nous éloignent, j'en inventerai d'autres qui nous soignent. Je resterai toujours debout, je mènerai ma quête jusqu'au bout. Mes blessures sont trop profondes pour les laisser vaguer sur l'onde. Il y a bien des lunes, tu vois, nous avions du mal et des tracas. Mais il nous faut trouver le baume qui traitera nos hématomes. Mais il nous faut trouver le baume qui traitera nos hématomes. Je resterai toujours debout, je mènerai ma quête jusqu'au bout. Mes blessures sont trop profondes pour les laisser vaguer sur l'eau. Ma vie, je veux de la couleur, pas seulement de l'angoisse et de la peur. Car demain j'aurai mieux à faire que de me tapir dans l'ombre de la lumière. Car demain j'aurai mieux à faire que de me tapir dans l'ombre de la lumière. Je resterai toujours debout, je mènerai ma quête jusqu'au bout. Mes blessures sont trop profondes pour les laisser vaguer sur l'onde. Et demain j'aurai mieux à faire que de me tapir dans l'ombre de la lumière.
Alors, comme je vous disais, on va finir l'émission avec des extraits de Taureau Yogi des Bois. C'est, chaque semaine, je vous lis un extrait là, de Walden, d'Henri David Taureau, qui est un peu le père de la simplicité volontaire. C'est pour ça que Taureau, c'est un peu comme le mentor des simplicitaires. Et notre émission qui porte sur la philosophie, et la simplicité volontaire et l'écologie. Ben, Taureau, c'est un incontournable. Et ça, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. C'est de Colette Poggi, P-O-G-G-I, Taureau, Yogi des Bois. Colette Poggi, c'est une spécialiste de l'Inde, des spiritualités de l'Inde. Et elle fait un parallèle entre Taureau et les pratiques spirituelles en Inde, dont le yoga. Elle dit que Taureau, c'était vraiment un yogi, dans le fond. Alors, c'est son titre, c'est Taureau, Yogi des Bois. Alors, je vous lis quelques extraits du livre ici. Alors, on dit, pour Taureau, tout événement injuste, toute attitude malveillante provoque ce sentiment de mal-être qui le poussera à se transformer en rebelle. La brutalité de l'enseignement avec les châtiments corporels qu'il refuse d'administrer. Il abandonnera très rapidement son poste d'instituteur à Concorde. La guerre contre le Mexique qu'il juge injuste et qui le conduira à ne plus payer d'impôts qui la financent, d'où son séjour d'une nuit dans la prison de Concorde. L'esclavage qui le révolte et contre lequel il s'engagera avec force individuellement. Le développement de la technologie et de l'urbanisation, notamment à New York. Le séjour dans la forêt lui fait ressentir avec plus d'acuité encore les causes de dukkha, la ville, la foule, l'époque, ainsi que l'expérience de sukha, l'harmonie avec la vie. Dans cet entre-deux, il prend le temps de se poser des questions fondamentales sur lui-même, sur la société, sur le progrès. Cette distance de quelques kilomètres entre Concorde et Walden lui offre à la fois le recul nécessaire pour voir autrement et le temps pour coudre ensemble ses intuitions. Dès le début du 19e siècle, se développe dans les pays occidentaux une accélération de la technologie, de l'industrialisation, qui, pense-t-on, peuvent améliorer les conditions de travail et d'existence. On veut croire dans un progrès moderne fondé sur la science. Le bonheur du confort matériel serait à portée de main. Toutefois, divers courants s'inscrivent en faux contre ce danger de mécanisation à outrance. Les romantiques, ou par exemple le fondateur des phalanstères Charles Fourier, qui voulait limiter les machines et le travail au strict nécessaire selon les besoins réels de la société. Ces penseurs et artistes remettent en question cette fuite en avant et s'émerveillent des mystères de la nature, des forêts et de la vie simple. Que serait notre monde aujourd'hui si leurs perspectives avaient été prises en compte? Les mises en garde de Taureau contre les excès d'une civilisation technologique sonnent à nos oreilles comme des alertes. Et nous, vers quoi courons-nous, éperdus, hypnotisés par la performance jusqu'à en oublier la beauté du monde? Cela me rappelle le soupir poussé par Confucius à propos de Yan Yuan. Quelle tristesse! Je l'ai toujours vu aller, je ne l'ai jamais vu s'arrêter. L'homme bien-né, est calme et spacieux. Le vulgaire s'agite toujours. Ce symptôme de la fuite en avant, toujours plus vite, plus connecté, non au-dedans, mais au-dehors, quel est son sens? L'ultime diagnostic serait-il celui de notre dukkha? Privé de discernement, sans recul, nous ne percevons même pas l'absurdité de la situation. C'est ce que Taureau dénonce. Et qu'il a pressenti dès ses années d'études à Harvard, ou avant même certainement. À l'opposé de ses camarades qui se lancent dans le commerce ou l'industrie, Taureau ne veut rien acquérir, si ce n'est l'amitié des arbres, des renards, des écureuils. Rien dompter, sauf son caractère. Rien gaspiller, ni l'eau, ni le temps précieux de la vie qu'il consacre à la culture des livres de sagesse ou des haricots. Et par-dessus tout, il trace son chemin de vie dans la forêt, sa véritable amie, sa confidente au visage toujours nouveau. La forêt est une inspiratrice inépuisable pour Thoreau. Il la considère comme un être à son image qui lui parle, qui respire et demeure infiniment vulnérable. La déforestation, la marchandisation lui répugnent et il dénoncera à plusieurs reprises les actions mutilantes d'une série par des conférences et des articles. Comme pour les romantiques allemands, la forêt lui offre un refuge plein de mystères, détenant une puissance magique grâce à laquelle l'individu peut se ressourcer pleinement. La forêt et le féminin ont toujours été mis en correspondance. Dans le Yoga Vasishtha, texte indien médiéval, l'un des contes initiatiques met en scène le roi Shikidiava, qui aspire à tout quitter de sa vie d'antan, y compris sa fonction royale. Il a pris conscience de la vanité des choses, de la fantasmagorie, que sont les différents rôles que jouent les êtres au sein de la famille, de la société, etc. Des rôles auxquels on s'identifie aveuglément et bien serré dans l'étau de l'ego. Peu de place pour la liberté de l'esprit. Tout l'espace, cas intérieur, devient le théâtre des projections internes de notre film individuel, généré par nos mémoires oubliées, l'inconscient. Le vasana sont les parfums de nos actes passés, physiques et verbaux et mentaux. Jamais ils ne s'effacent, sauf sous l'effet d'une catharsis. Dans l'intensité d'une expérience rituelle, spirituelle, esthétique qui dissout l'ego. Je suis là de tout. Je me retire dans la forêt. J'abandonne toute richesse, tout désir, déclare le roi, désabusé à son épouse Kudala. Cette dernière, plus fine que lui, sait bien que ce n'est là qu'une étape. Le véritable dépouillement nécessite un lâcher-prise plus radical encore, se délivrer du moi. La forêt, toutefois, joue le rôle de Shakti, principe féminin originel, énergie universelle et transformatrice. D'ailleurs, avant que le roi n'engage son propre processus de transformation, la reine, sans quitter le palais ni ses fonctions, avait la première amorcée une remise en question de son existence, s'interrogeant sur la fugacité du temps et l'impermanence de toute chose. Shikidiaja s'était alors étonné de voir sa femme changer. « Que t'arrive-t-il? On dirait que tu rajeunis de jour en jour. » Pourquoi cette image du rajeunissement, cette remontée du temps vers l'origine, en avançant sur les routes intérieures qui mènent du moi au soi, côte Kudala chemine métaphoriquement dans la forêt de son être. Elle marche solitaire et laisse entière liberté aux énergies de la conscience qui font le vide. Dans le shivaïsme du Cachemire, non-dualiste, elle porte le nom de Kali, la redoutable déesse. Leur fonction est de dissoudre les coagulations immémorales qui se sont formées dans nos corps subtils. Cette âme invisible qui tisse notre être individuel, mental, énergique, intuitif. Alors, on va prendre une petite pause musicale, puis au retour, on va terminer avec d'autres extraits de Thoreau Yogi des Bois.
Je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, j'en ai pas mes chars. Je vous laisse mon scraper, le appel de bois pour vous rendre à la vue. Je vous laisse la petite place à l'esprit du tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse m'en pays, je vous donne. Gestion jour le jour, comme ton travail, tes amitiés, comme tes amours, comme tes idéaux, tes croyances et tes valeurs, comme le sourire idiot que t'affiche pour cacher tes malheurs.
Bon, petite difficulté technique, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, je voulais passer demain l'hiver de Charles Lebois. Petit clin d'œil à l'hiver, comme je vous disais tantôt. Alors, je poursuis avec avec Mme Colette Poggi, Taureau, Yogi des Bois. Alors, on dit, en Chine ancienne, il y eut aussi de grands arpenteurs de montagnes et de forêts, des chercheurs d'absolu taoïstes ou bouddhistes. Tzu Yun, le moine aux semelles de vent, vécut de 1840 à 1959. Il était originaire du Yunnan, au sud de la Chine. Son nom signifie littéralement « nuage vide ». Lors de l'enterrement de sa grand-mère, il entend un sutra si merveilleux qu'il partit à sa recherche. Une image saisissante lui est associée qui pourrait parfaitement convenir à Taureau. En marchant, chaque morceau du vieux vêtement qui tombe est remplacé par un tissu de lumière. Chaque pas que je fais me rajeunit. Chaque pensée en accord avec la vie me guérit. Chaque souffle me relie à la vie. Cette manière d'être en yoga implique nécessairement un dépouillement, synonyme de croissance dans la lumière. Nous pouvons apprécier cet art de l'à-propos dans le récit que fit Taureau dans « Sept jours sur le fleuve ». Son premier livre, publié en 1849, raconte l'escapade menée avec son frère en 1839. Pour cela, ils construisirent de leurs mains un bateau et s'aventurèrent dans des lieux sauvages. Les difficultés rencontrées font jaillir des réflexions dignes des sages yogis. Comme la plupart des mots, la difficulté est imaginaire. Pourquoi se précipiter? Imaginons quelqu'un qui est bel et bien perdu. Il peut se permettre de conclure que tout bien pesé, il ne l'est pas. Qu'il n'est pas à côté de lui-même, mais qu'il se tient les deux pieds dans ses vieux souliers à l'endroit où il se trouve, et que pour l'heure, c'est là qu'il vit. Ce sont seulement les endroits qu'il a connus qui sont perdus. Ainsi s'efface toute angoisse, tout danger. Je ne suis pas seul si je reste près de moi. Qui sait dans quel espace tourne ce globe? Pourtant, nous ne nous considérons pas comme perdus. Qu'il aille où il doit. Alors ça, c'était un extrait de Taureau. Alors, comme Mme Poggi dit, on voit que Taureau faisait une démarche spirituelle qui ressemblait au yoga. Quand il marche solitaire de l'autre, il demeure uni au même, car l'arbre n'est pas autre que lui, mais appartient à la même unité. Son regard traverse la forme et devient sève, écorce, bois, branches, feuilles. Devenir sensible à la beauté des forêts pour Taureau, découverte de soi. Il signifie vivre l'immédiat librement. Heureusement, nous avons tous nos bois sacrés. Pour Taureau, ce fut Walden. Pour moi, ce fut une forêt de livres, poésie, métaphysique indienne, mystique médiévale, mais aussi les bois vibrants de pluie et de vent, à la Sainte-Baume et ailleurs dans les maquis corses et les fougères. Je regarde les dessins de flèches indiennes recueillies par Henri David Taureau au cours de ses excursions dans les contrées sauvages, et je pense aux écorces d'ifs ramassées au hasard de balades en forêt. Des vers y avaient laissé des calligraphies indéchiffrables. J'y voyais sans doute une réminiscence des écorces de bouleau qui servirent de support pour écrire en Inde. Taureau aurait pu y tracer quelques vers de ses poèmes, un verset de la Bhagavad Gita, une pensée de Lao Tzu ou de Zoroastre. L'ivresse de la forêt, la danse de la forêt, sa musique, oui, je comprends ce que Taureau veut dire quand il déclare ne jamais être seul, car tout vibre et entre en résonance pour un cœur esprit en éveil. Serait-ce là, au fond, qu'il est venu chercher dans les bois, recomposer le regard éclaté en fragments, retrouver la complicité directe, sauvage, avec les éléments. Cette expérience de la réalité vibrante correspond à la quête profonde du yoga. Cela apparaît avec évidence dans les Védas, les Upanishads, les Tantras. Cette manière de s'intéresser dans la grande symphonie de l'univers n'est pas fantaisie de l'esprit. Il suffit d'écouter les grands scientifiques inspirés en physique quantique, en mathématiques, en botanique, en astrophysique et bien d'autres disciplines. Tous sont émerveillés devant la complexité interconnectée du réel. La forêt en est une preuve évidente. comme on a réussi à capter, venant de l'univers, le son du Big Bang, la forêt recueille à son vivant silence la vibration de l'origine. C'est ce que pensent nombre des peuples, tels que les Kogi de Colombie, que nous retrouverons pour leur superbe approche des arbres. Ils voient au travers des apparences et parviennent ainsi à se mettre à l'unisson de l'originel. Alors, on prend une dernière petite pause musicale, puis après ça, on va conclure quelques phrases de Madame Kogi. Nathalie Choquette, Air sur la corde de sol de Jean-Sébastien Bach. Alors, on termine l'émission avec un petit extrait toujours de Taureau Yogi des Bois de Colette Poggi. Dans le silence spécial offert par la vie dans la forêt, l'existence devient champ de métamorphose. Le besoin éprouvé de se mettre pour un temps en retrait du monde virevoltant et du carcan des conventions sociales ramène toutes celles et tous ceux qui l'éprouvent à une expérience primordiale comme celle de Taureau. L'aventure de Walden vit le jour le 4 juillet 1845 et s'acheva le 6 septembre 1847. Elle dura donc 2 ans, 2 mois, 2 jours, un peu à la manière des retraites bouddhistes tibétaines de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Une enforestation qui rappelle celle de tant de chercheurs de l'intériorité. Trouver refuge auprès des arbres qui en savent bien plus que nous sur la réalité invisible. Ce que je sais de la science de Dieu et des Écritures, je l'ai appris dans les bois et les champs. Je n'ai pas d'autre maître que les hêtres et les chênes. Saint-Bernard. Alors, bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission Dans toute simplicité.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'entrepôt du rock avec des morceaux de qualité comme... Oh, cette offre est d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'Entrepôt du Rock avec Yannick Plouffe. Une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.
Salut, c'est François Laplace, boutique gourmande. Tu veux faire une différence dans le quartier? Ben nous, on embarque avec toi. Comment? Si tu achètes une carte cadeau de 20$, nous, on va la bonifier en ajoutant 5 cafés. Comme ça, tu peux l'offrir à quelqu'un de la rue et vraiment faire une différence, et ça, dans l'intimité. Passe nous voir au coin du pont Saint-Joseph, à deux pas de Sequoia. Voilà!
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 5 janvier 2026. La semaine de l'agriculture, de l'alimentation.